Bien, donc on va faire un swap pour essayer de gérer à la fois les temps des intervenants et notre retard qu'on a un peu réduit en supprimant la pause. Donc on va présenter la partie système d'information. Donc vous allez voir qu'il y a fait suite à un appel à candidature auprès de nos établissements. Donc c'est pas encore tout à fait naturel pour nous, mais c'est aussi une méthode de travail que de mutualiser nos réflexions. Donc c'est Thierry Courbis dont je remercie d'avoir voulu nous accompagner, qui va vous faire la présentation. Et puis ensuite, on présentera, donc avant d'aller déjeuner, la première partie de la réflexion sur la conception fonctionnelle des locaux sur le territoire.
Bien, merci Pascal, merci à vous tous. Je m'excuse auprès de ceux à qui j'ai grillé la priorité. C'est toujours agréable d'intervenir à midi devant un amphi qui a faim, qui a vu sa pause griller, les ventres qui gargouillent pour un sujet aussi sympathique que les dossiers patients partagés. Outre cela, je dois dire que je suis très heureux d'être là et j'ai rajeuni de 7 ans puisqu'il y a 7 ans, j'étais dans les hôpitaux publics, responsable au niveau national de la tarification à l'activité et on parlait de la mise en place prochaine de la VAP dont j'entends que le consensus n'est pas établi. Donc c'est un petit plaisir ce matin que de reprendre contact avec cette actualité. Donc je ne connais pas votre secteur si ce n'est que lorsque j'étais directeur d'hôpital public, 80% des appels en garde étaient des appels qui, de près ou de loin, avaient trait à la psychiatrie. Et lorsque j'ai dirigé l'hôpital de Monaco, bien entendu, il n'y a aucun problème de santé mentale à Monaco. On n'avait pas le droit d'appeler la psychiatrie psychiatrie. Et j'ai mis 2 ans pour que l'appellation du service soit appellation de service de psychiatrie. Bien, donc tout ça pour dire que je suis heureux d'être là ce matin et que mon propos, si ça marche, n'est absolument pas personnel. Je n'ai été que le témoin, donc transparent suivant. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Je ne suis que le rapporteur d'un travail qui a été suscité par Pascal Mariotti auprès de vos responsables système d'information. Donc, je voulais présenter le groupe. L'agenda, on va le passer. Je vais présenter le petit groupe que je représente ce matin, donc transparent suivant. Voilà, donc il y a eu un appel à projet sur un sujet des dossiers patients partagés, territoire, système d'information, tout ceci. Un certain nombre de volontaires ont voulu s'associer à ce projet et compte tenu de l'éloignement de certains, on a mis en place une méthode de travail un peu particulière. Un cadrage qui a été fait par échange de mails, conférence téléphonique par Pascal, une vidéoconférence avec les intervenants que je citerai, une participation écrite, contribution de chacun par email avec un petit thésaurus là-dessus, une journée de synthèse juste à côté à Sainte-Anne et une demi-journée de finalisation dans vos locaux pour pouvoir vous présenter ce résultat ce matin. Qui a travaillé là-dessus? Ben, vous voyez les noms, je ne vais pas les citer tous. Chacun a apporté son écho. Je saluerai plus particulièrement l'effort des personnes de Saint-Égrève qui nous ont accompagnés jusqu'à tout à l'heure pour terminer cette présentation. Et puis, vous avez souhaité vous entourer d'un consultant qui ne connaissait pas votre secteur, mais qui connaissait très bien les systèmes d'information, peut-être pour éclairer ces recherches-là de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres secteurs, en France et à l'étranger. Donc c'est moi qui ai effectué ce petit travail-là. Et on a eu un petit mandat pour réfléchir sur le sujet. Donc si c'est celui du milieu. Alors, les enjeux, je ne vais pas les reprendre, vous les connaissez bien mieux que moi. Pascal Mariotti avait fait une petite note que j'ai lue avec grand intérêt, qui dit en substance que lorsque la loi HPST, son dérivé actuel, a introduit la notion de territoire, la psychiatrie semblait partir avec un demi-siècle d'avance, puisque au travers de la sectorisation, vous aviez déjà fait un pas dans ce chemin-là. Pour autant, vous posiez des questions tout à fait légitimes sur l'adaptation de ces concepts un petit peu anciens. Il y a toute une liste de questions qui m'ont beaucoup intéressé. Et au milieu de ces questions, figuraient les systèmes d'information dans tout ça. Est-ce qu'on a des outils qui permettent de réfléchir à territoire, qui permettent de réfléchir partage d'informations au sein d'une zone géographique et au-delà du secteur qui est le vôtre depuis un demi-siècle? Ça, c'est notre sujet. C'est le sujet du groupe. Donc, vous avez chargé un groupe de personnes volontaires de réfléchir et le dossier patient de territoire. Alors, on s'est attaché à cadrer ce sujet, à lui donner une traduction qui puisse vous servir d'exemple. Et on a trouvé 2 axes qui méritaient d'être reportés ce matin devant vous. Un premier axe qu'on a appelé le dossier patient partagé, à défaut d'appeler ça dossier patient de territoire. Et un deuxième axe sur les outils de mobilité. Alors, comme mon collègue précédemment, ça n'engage que moi, on a sans doute été bien imparfait dans la contribution. Pourtant, on s'est mobilisé. Donc, tout ceci, j'assume ma pleine responsabilité, ce qui est écrit juste derrière. Alors, je ne veux pas vous... à midi, je vais passer les définitions. Retenons deux choses. Dossier patient partagé, il y a un écrit fondateur, Marius Fieschi, à la demande du ministre Mattei, qui a décidé de faire un grand rapport qui est disponible en ligne sur le web et qui définit ce que c'est un dossier patient partagé. C'est la seule fois où vous trouverez, si vous faites une recherche appuyée sur Internet, la notion de dossier patient partagé avec tout ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans, etc., langage commun, enfin je vous passe les détails, des grands théoriciens. Inversement, côté anglo-saxon, là, on a une littérature très prolixe. Et si vous arrivez à lire les travaux du Johnson Hall Group, en clair, les patrons des HMO et des DRG aux États-Unis, vous trouverez là tout ce qu'il faut faire pour chaîner l'information et la rendre utile. Donc, un gros écart entre la position française et la position internationale sur le thème d'un dossier patient partagé. Quand vous faites la même recherche, chaque fois, vous allez tomber sur quoi ? Dossier patient partagé égale le DMP. Donc DMP, ben, il fait suite au rapport Marius Fieschi, il s'appelait dossier médical partagé, aujourd'hui, vous le savez, il s'appelle dossier médical personnel, et puis ça boucle, et vous ferez vos recherches, et vous tournerez chaque fois sur le DMP avec sa gabegie, ses 210 millions d'investis pour 300 000 dossiers, la ZIP, on continue pas, et toute la problématique sur le DMP. Donc pas grand-chose à tirer de la littérature sur le sujet en clair, et encore moins dans la psychiatrie. Il y a néanmoins quelques expériences en France, ce ne sont pas encore dans votre domaine, encore qu'il faut les chercher, ça fait partie des propositions. Il y a une région en Franche-Comté qui a décidé de mettre en place, au travers un groupement d'hôpitaux, un vrai dossier partagé à l'échelon régional. Et puis on va trouver des approches par pathologie, les onco, LR, les périnatalités ont des approches de dossier partagé. Et enfin, vous avez des approches technologiques, des PACS régionaux, des centrales de biologie régionales qui structurent de l'information également. Voilà ce qu'on a un peu sur le sujet. Je vais passer ça, mais j'avais imaginé que, n'étant pas des spécialistes du système d'information, il fallait se rappeler que système d'information ne voulait pas dire informatique. Je n'ai pas le temps. Et on va arriver au premier point que l'on a traité. Alors, grosse déception, on a voulu le traiter, et puis on a dit, mais ce n'est pas nous le traiter. Alors, ce n'est pas nous le traiter pour la raison suivante. Quand on a réfléchi sur, mais qu'est-ce que c'était du point de vue des systèmes d'information, un dossier patient partagé? Moi, j'ai posé quelques questions, comme je l'aborde lorsque j'interviens sur un établissement qui nous sollicite. Est-ce que vous avez une obligation d'avoir un dossier médical partagé? Ben, on a beau creuser la tête, la réponse a été non. Est-ce qu'il y a un véritable consensus médical qui réclame, à corps et à cri, la mise en partage des informations? La réponse a été non, illustrer chacun de sa petite histoire. Au contraire, est-ce qu'il est sain de partager l'information? Certains sont partie prenante là-dessus, d'autres ne sont pas complètement opposés. Est-ce qu'on doit tout mettre? Comment le mettre? C'est quoi la sécurité? Bon, bref. Il n'y a pas un consensus médical dans le groupe qui a été remonté. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Encore une fois, ces travaux-là sont le reflet d'un groupe, avec l'intelligence du groupe et ce que c'est le groupe. Est-ce qu'il y a un consensus d'établissement sur le sujet? Ben là non plus, on nous a raconté des petites histoires où deux établissements de psychiatrie, voisins, un jet de pierre, partaient en appel d'offres et retenaient des solutions différentes. Bon, on est en terre gauloise, ça existe. Est-ce qu'on a pu évaluer l'efficience économique de ce que ça rapportait? Alors, il y a quelques tentatives dans le domaine du SEO, il n'y en a pas dans le domaine de la psychiatrie. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'investir là-dessus amène de l'efficience? Il y a bien un début de loi, la programmation des soins avec des suivis en alternance qui ouvre la porte à un minimum de partage, de transmission d'informations, mais ce n'est pas encore très contraint. On sait très bien qu'en matière de système d'information, les bons se font que sous la contrainte de la loi. Ça, je vous montre toutes les statistiques, la corrélation, elle n'est pas de 0,47, elle est de 1. Et puis, qu'est-ce que pensent les autres du sujet? Ceux avec qui vous coopérez, les centres hospitaliers non psychiatriques, les médecins généralistes, les EHPAD, est-ce qu'on les a interviewés? Est-ce qu'ils sont demandeurs? Est-ce que... Toutes ces réponses, c'est non. Moi, j'ai dit, ben, c'est un mauvais dossier, il ne faut pas le traiter. Ce n'est pas un problème de DSI, soyons clairs. C'est un problème qui est plus politique et stratégique. On intervient après une feuille de route, on n'intervient pas avant. Vous n'allez pas arriver avec un dossier modèle français et puis achetez-le et puis voilà ce que ça va faire si tout ceci n'est pas réglé. Donc, bah, je dirais, on a un peu dégagé en touche. Ce n'est pas très élégant, mais c'est le strict reflet de la pensée du groupe. Alors on a dit quand même qu'il y avait pourtant des demandes, et ces demandes, vous les avez traitées. Bien entendu, vous êtes sortis des murs, donc il a fallu apporter dans ces services délocalisés des réponses. Il y a eu des urgences en psychiatrie, il y a des équipes mobiles, il y a des interventions à l'extérieur, et des gens vos médecins vont à l'extérieur, et vice-versa. Il y a des présences permanentes médicales plus rares dans certaines zones qui imposent des nouvelles réflexions sur est-ce que l'information ne peut pas suivre la vidéoconférence, la télémédecine, etc. vous avez des synergies fortes avec le médico-social, et ce n'est pas la personne âgée, c'est le handicap, c'est l'isolement, c'est tout cela. Et puis, la population vieillissante amène son lot de maladies à d'origine psychiatrique. Donc, des besoins existent. Alors, ces besoins, aujourd'hui, les spécialistes des systèmes d'information y apportent des réponses techniques. On a mis en place des fils sécurisés plus ou moins, ce qu'on appelle des VPN, des réseaux privés. Alors, vous avez, pour les structures extra-hospitalières, la mise en place d'un VPN pour les services des urgences, des IPN sécurisés. Donc, chaque fois, c'est une façon de relier deux points d'accès avec plus ou moins de sécurité. Ça ne veut pas dire que vous avez le même dossier derrière, ça ne veut pas dire qu'il y a un consensus de ce qu'on va échanger. Ça veut dire que vous avez la capacité de mettre un tuyau plus ou moins sécurisé entre des acteurs qui le demandent, et ça, vous avez à y faire face. Donc ça, on a un savoir-faire. Mais il y a peu de réflexion sur une véritable solution unique, convergence, fonctionnelle, pour dire au-delà du tuyau de quoi on parle. Alors, on va passer au suivant. Le dossier patient partagé, c'est une excellente initiative, et je remercie l'association de l'avoir lancée. Vous avez un contexte favorable à cela, clair. Vous n'y couperez pas. L'évolution des technologies fait que, de toute façon, ce qui ne sort pas par la politique sera poussé par la technologie demain. C'est comme quand on ne veut pas être sur Facebook, un jour on s'y retrouve. Mais les préalables sont loin d'être techniques, il faut les régler. Le consensus médical mériterait que ce groupe-là se rapproche des sociétés savantes, de médecins d'hymne, de cliniciens, pour réfléchir, discuter ensemble sur le sujet. On ne l'a pas fait. Et que pour poursuivre cette réflexion, il faut un véritable mandat avec un rapprochement et une extériorisation de ces compétences que nous avons réunies. Alors on était un petit peu frustrés tout ça. On a dit, mais alors il n'y a que ça à dire. Ce matin, ça tombait bien, c'est court. Mince. Et non, il y avait quand même d'autres enjeux. Alors on les a regroupés, on a évité d'être redondants, de dire deux fois la même chose. On a dit, mais non, il y a quand même la mobilité. Nous sommes dans un secteur, on a des gens mobiles. Les patients eux-mêmes sont mobiles. Et donc on a dit, mais bien, super, ça va faire deux sujets. On va traiter de la mobilité vue du patient et vue des professionnels. Ça tombe bien parce que là, les DSI sont beaucoup plus légitimes, avec des choses à dire, des choses à promouvoir. On quittait un peu plus le domaine stratégique. Alors qu'est-ce qu'on a dit sur le sujet, sans être... Il est pénible, hein, le machin. C'est quoi la mobilité pour les professionnels? Alors déjà, on a dit, est-ce que là, il y a aussi un incitateur, un levier qui pousse à faire? Ben oui, il y en a quand même quelques-uns. Il nous faut optimiser les ressources médicales et soignantes, personnaliser les prises en charge. Donc ils ont besoin de bouger, on a besoin de les doter d'outils. Il faut faire face à des utilisations d'urgence, il faut permettre des interventions pluridisciplinaires qui demandent de coopérer là-dessus. Il faut bénéficier d'une expertise extérieure. Donc ces gens-là, ils vont communiquer avec nous. On peut être experts nous-mêmes. Nos médecins psychiatres peuvent être experts nous-mêmes pour d'autres. Il faut éviter les déplacements. Ça coûte cher, c'est compliqué. Il faut conserver quand même un lien avec les centres hospitaliers qui reçoivent tout ça, avec qui nous partageons des patients. Au demeurant, on dit différemment des choses qu'on a vues tout à l'heure. Moi, je trouvais quand même qu'il y avait une certaine... On a la même saveur derrière tout ça. Et on a su mettre en place derrière la mobilité des solutions. On en a parlé tout à l'heure avec les VPN, mais vous avez réfléchi aussi sur des solutions autres. Alors là, on nous a raconté des jolies histoires, des établissements qui ont équipé leurs médecins de PC portables avec une petite icône en lien avec leur système d'information, la possibilité de mettre cet accès-là, y compris sur des matériels personnels. Donc vous avez fait un pas en faveur de ces besoins. Mais le groupe a remonté des difficultés. En la matière, la technologie ne doit pas porter le projet métier. On ne fait jamais rien à partir de la technologie. La technologie peut être très structurante, mais ce n'est pas elle qui porte le métier. Deuxième sujet, il faut éviter la gazettisation. On va quelque part, on voit, c'est super, je veux le même. Bon, est-ce qu'il y a un vrai projet derrière? Est-ce que ça a du sens? Troisièmement, c'est une vraie réalité, surtout en psychiatrie, où vous êtes installé parfois dans des zones qui ne sont pas faciles, montagneuses, isolées, au début de la sectorisation. Nous avons la chance en France d'avoir une couverture 3G, 4G remarquable. Le côté noir de tout ça, c'est quand ça ne marche pas, on est très frustré. Or, il y a des zones entières qui ne marchent pas, et la réponse à ça, c'est le satellitaire. Bon, le satellitaire, c'est une courbe décroissante de coûts, mais je vous ai donné le dernier coût d'Iridium, parce que nous, on travaille souvent dans des projets avec le besoin d'un satellite. Il faut compter à peu près un forfait de 600 euros par an, et puis 5000 euros d'avance de consommation pour 80 heures de communication dotée voix ou données. Par médecin psychiatre qui se déplace, ça fait quand même un certain nombre d'argent à mettre. Donc là, vous êtes en difficulté. C'est peut-être une préconisation d'augmenter les infrastructures. Moi, je suis aujourd'hui résident suisse. Ma société est suisse. Je dois dire qu'il y a peu d'endroits dans la montagne qui ne sont pas couverts. Bon, la France est très bien, sauf dans des zones où on n'est pas bon, du tout. Et c'est malheureusement sans doute des zones où vous avez des patients, où vous avez besoin d'y aller. Donc ça, c'est quelques difficultés. Hop, oh là là. Hop, non. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Tac, tac. Hop, encore un. Alors, là, j'ai demandé l'aide de quelqu'un, parce que je pense que le pointeur qui a déjà du mal sur les transparents n'arrivera pas à trouver les carrés. Et là, c'est la porte du consultant. Et qu'est-ce qu'ils font les autres sur le sujet ? Voilà, donc ça, c'était le pourbut. Je devais terminer juste avant l'apéro, donc je devais donner, on m'a dit, montrer un peu des images et des films pour les réveiller. Donc, alors, si on peut cliquer. Alors, voilà ce qu'ont inventé les autres. C'est pas nouveau, hein. Tous ceux qui ont, comme moi, quelques cheveux blancs, on dit, mais ça, on l'a déjà vu. C'est le chariot à roulettes sur lequel il y a un PC. Alors, là, l'innovation, c'est quoi ? C'est le PC, il est déjà mieux. Le PC, il est sécurisé. Le PC, il amène la vidéoconférence. Ça, c'est le modèle HEGP. Pour moi, pas forcément une référence, mais c'est quelque chose qu'on installe. Aujourd'hui, vous avez dans l'environnement MCO, français, étranger, des gens qui arrivent avec ce type de solution et qui installent chez des sites partenaires la solution, ce qui fait que quand votre professionnel y va, expert de neurologie, psychiatre, il ouvre son bureau, il y a ça, il se connecte, tout est connecté, sécurisé et ça marche. Donc vous avez plein de personnes qui vous développent des petites solutions pour pas cher et qui fonctionnent très bien. C'est une extension de votre système d'information mobile auprès des sites partenaires. Si on peut revenir avec le carré bleu, la mauvaise idée, c'est pas moi qui ai touché, hein. La mauvaise idée, c'est ça, deuxième carré, centre hospitalier régional d'Annecy, c'est le premier qui a lancé la mode, c'est de croire que le terminal au lit du patient est un outil de mobilité. Ça marche très bien pour le patient, surtout pas pour... alors le terminal patient, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, installé sur un bras au-dessus du lit. On vous allez dire, en psychiatrie, on va s'y pendre, c'est peut-être pas la bonne solution. Et puis vous avez une véritable module avec du divertissement, avec beaucoup de choses, dont l'accès au système d'information. Au plus près du lit, là où il est le patient. Bon, ça ne marche pas. Donc oubliez-le, ça ne marche pas. Si on vous dit qu'il faudrait regarder ça, à part pour le patient, ça ne sert pas. Si on revient. Alors ça, bon, voilà, j'ai été sûr, ce n'est pas la peine. De toute façon, on n'a pas le temps. C'est dommage, il y avait un très beau film, je vous le laisserai si vous voulez, qui montrait l'utilisation remarquable. Alors quand je dis utilisation, ce n'est pas un livre. Hein. Tout ce que je cite comme établissement, j'y suis allé personnellement plusieurs fois. Donc là, c'est le CHU de Toronto, en Ontario, un endroit assez sympa à visiter. Je vous invite à y aller. Et alors là, c'est comment faire une politique système d'information en utilisant l'outil le plus près du corps médical, à savoir l'iPhone. Partenariat Apple international. Et à partir de là, on se casse un peu la tête en disant sur un iPhone, on ne va pas faire la même chose qu'on fait sur un écran, évidemment. Donc on va réfléchir à un système d'information qui est compatible à la taille d'un iPhone. Et on va se mettre à gérer non pas tout un dossier, mais quelques points, des alertes. On va faire de l'écrétage. Et donc, les penseurs qui ont fait ça ont aujourd'hui un système d'information reposant sur des médias ultra-mobiles qui est remarquable, avec des courbes d'évolution, d'évaluation qui sont assez sensationnelles à visiter. Donc ça, c'est une révolution. Donc il y a ce système-là. Donc ça existe. Je peux vous y amener, je peux vous introduire et ça marchera très bien. Et puis le dernier point, c'est ça. Donc c'est nos voisins suisses. Ça peut vous donner des idées. C'est ce qu'on appelle le « bring your own device ». Finalement, si plutôt que d'acheter les bons outils portables aux professionnels, ont utilisé les leurs. Alors, ça veut dire apporter son propre appareil, hein, bring your own device. Donc, c'est un machin qui existe de 2007. Donc là, j'ai fait une très belle étude pour les HUG qui ont dit, arrivé à un moment, ça nous coûte vraiment très cher, entre la casse, le vol, le renouvellement, l'évolution technologique, de remplacer les outils portables de nos professionnels. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur autre chose ? Faites-nous un peu une étude de fond là-dessus. C'est ce que nous avons fait. Donc là, je surfe un peu sur l'étude. Hein. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition des pros, non pas du matériel, mais d'utiliser chacun le sien, quel qu'il soit. Sauf que le système d'information se transforme pour que sur le média du professionnel, on télécharge sous forme d'APP, comme sur votre iPhone aujourd'hui, une application qui vous donne accès aux fonctions de l'entreprise. Donc vous êtes responsable de votre matériel, vous partez avec lui dans la poche. Et puis, inversement, vous téléchargez ça sur le site et vous le renseignez et ça part dans le système d'information. C'est ça le bring your own device. Donc c'est une stratégie, c'est une contrainte technique, c'est une véritable étude qui a été faite. Juste pour vous donner ça, hein. Ça c'est le Gartner, ça vous donne aujourd'hui ce qu'il en est. Dans l'environnement total, c'est pas hospitalier, 50% des grandes entreprises ont un projet bring your own device en place, en termes de mobilité, de réponse à la mobilité de leurs professionnels. Je vais passer là-dessus. Ça vous donne un peu l'écart qu'il y a selon ce que l'utilisateur décide d'utiliser. Donc, il est bien dans tel côté, il est moins bien tel autre. Et puis ça vous rappelle que l'essentiel du sujet, il est juridique. On va contractualiser d'abord le rôle et les responsabilités de chacun, l'utilisation d'un outil qui est personnel, et on va définir les contributions de l'établissement à se servir d'un matériel qui n'est pas le sien. Et donc ça, c'est un vrai projet qui est intéressant à faire et à débloquer. 50% des grandes entreprises aujourd'hui ont un projet de cette sorte. Dans le monde hospitalier, il n'y en a pas. Les premiers que je connais en Europe, c'est nos voisins genevois. Transparent suivant. Si on peut viser le petit carré. Non, non, ça, c'est pas bon. Non, c'est pas celui-là. Revenons derrière. Hop, si on peut remonter deux slides, et puis je vais en terminer. Allez, hop, on passe au deuxième sujet, les patients. Et si les outils de mobilité aux patients? Donc là, on a réfléchi sur est-ce qu'il y a des besoins? Ben oui, parce que le patient, il bouge. Et votre patient psychiatrique, il bouge encore plus que d'autres. Donc là, on sort du secteur, on sort de sa sectorisation, on est peut-être même sur du trans-région. Donc il va falloir le suivre. Est-ce qu'il a besoin de suivre avec l'histoire de sa maladie? Est-ce qu'on peut se servir d'outils pour l'éduquer, l'améliorer dans sa santé? Est-ce que ça peut être un support de certains de vos soins en réseau social, de parole? Est-ce que lui-même, lorsqu'il rentre dans vos structures, demande à avoir accès à ces réseaux sociaux, demande à conserver un accès à Internet? Qu'est-ce que vous en faites en réponse médicale de tout ça? Est-ce qu'on peut faire pour les enfants hospitalisés, utiliser des outils d'enseignement avec cela? Et le domicile? Voilà un peu la somme des questions sur lesquelles on a staffé et on a dit, là, il y a un véritable besoin. Transparent suivant. Alors, en la matière, vous ne faites pas grand-chose. Je dirais même, vous faites vraiment très peu de choses. Qu'est-ce que font les autres? Alors, j'ai proposé quatre pistes au groupe qui a trouvé ça intéressant. La première, c'est celle-là. Alors, c'est un établissement aussi très sympa à visiter, je vous invite. C'est le Son Laser au Baléares. C'est un hôpital vedette, la région baléares, qui a l'avantage d'être construit tout neuf sur la base d'un appel à fréquentation. Tous les agents sont des volontaires pour y aller. Donc ça permet de niveler, on a envie de travailler au Son Laser, on travaille de manière différente. Cet hôpital ouvert en 2004, hein, est assez sensationnel. Et en 2004, vous voyez la forme du téléphone, hein, une photo d'époque, c'est très loin de nos téléphones d'aujourd'hui. En 2004, tous les rendez-vous du Son Laser et hospital étaient envoyés à ces patients une semaine avant et à H-24 pour rappeler confirmation de rendez-vous. Alors, je vous passe en plus une courbe qui faisait qu'on pouvait changer son rendez-vous et si on optait pour une phase où il y avait peu de fréquentation, ça coûtait moins cher. L'idée, c'est ça. Est-ce que dans vos établissements, ça peut être intéressant de conserver un lien par rapport à une population qui peut-être en a besoin pour lui confirmer qu'il va venir dans une semaine, pour lui confirmer qu'il va venir demain? Qu'est-ce qu'on peut mettre ce lien interactif en place? Est-ce qu'on peut y réfléchir? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, dans la MCO, là où on l'a fait, ça apporte beaucoup de choses. Ce type de plateforme, c'est 15% de productivité sur les secrétariats, c'est 30% d'annulation de moins en matière de consultation. Ça, c'est un chiffre très concret. Dans votre secteur, est-ce qu'on peut aussi en jouer différemment? Voilà une première piste de travail sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Transparent suivant. Deuxièmement, c'est le 2.0. Donc là, il n'y a pas de photo à voir, non, non. Alors ça, c'est en France, on est très en retard. Moi, j'ai une consultante qui s'appelle Denise Silver, c'est la papesse franco-américaine du 2.0. C'est l'utilisation de tous les médias sociaux à vocation de médecine. Alors, les Américains sont très avancés, les associations de patients se regroupent dans des tax forces puissantes utilisant les médias du web pour être un groupe de pression, de lobby, face à des professionnels. Donc sur la cancérologie, vous avez comme ça des gens qui disent « Attendez, moi je suis au Los Angeles et l'autre je suis au Mount Sinai à New York ». On ne va pas donner la même molécule, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que t'en penses? Quoi tes effets? Et groupé, paf, et ça part sur le professionnel, qui se retrouve derrière avec 1,5 million de personnes qui ont discuté de son traitement. C'est-à-dire, c'est une dérive. Mais ça arrive à grands pas. Ah, je vous dis, ça arrive à grands pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça arrive à grands pas. L'hôpital de Toronto, je vous citais, si vous regardez ses places stratégiques, je les ai vues, aujourd'hui, plus de 30% de ses investissements, c'est de dire, ça, on ne peut pas le subir, il faut qu'on le drive. C'est nous qui allons prendre le drive. C'est nous qui allons être à l'initiative des plateformes de collaboration. On va créer les blogs, on va créer les réseaux. Est-ce que ça a du sens dans vos métiers? Est-ce que ça a du sens avec vos populations, avec vos familles? Question ouverte. En tout cas, c'est une réalité qui arrive d'outre-Atlantique très vite. Troisième sujet, c'est un projet genevois que j'aime beaucoup. Il s'appelle Étoile. Très beau, Étoile des Neiges. Vous savez sans doute que, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais jusqu'à peu de temps, lorsqu'on était malade genevois, on pouvait se faire soigner qu'aux HUG, sauf à avoir des assurances privées très très chères et avec des tiroirs d'options qui sont inconsciemment. C'est très compliqué. Donc, un genevois, il se faisait soigner aux HUG. Bon, aux HUG, on est 50 plus cher qu'à Zurich. À peu près, c'est la Roumanie versus l'Allemagne, on est 50 plus cher. En 2012, on a dit, ça va changer. Désormais, le patient, il peut aller se faire soigner à côté, à Lausanne. qui est moins cher. Révolution aux HUG, comment fidéliser mes clients? Ils vont partir, qu'est-ce que je fais? Donc ils ont mis à Antoine Gesbühler, qui est un prof très intéressant, à dire, et si on remettait le patient dans une courbe, dans une toile? On va le mettre dans la boucle. Et donc ils ont développé un véritable projet qui s'appelle e-toile, assez intéressant, transparent suivant, qui vise concrètement à dire, lorsqu'un patient rentre aux HUG, est-ce qu'il ne peut pas, lorsqu'il arrive, paf, son téléphone sonne, il y a une APP qui l'invite à le charger, est-ce qu'il est d'accord pour le faire ou pas? Et s'il charge, il va rester en lien avec nous. Il vient pour une consultation de psychiatrie, une maladie rare, ben, par seul bien, il va être systématiquement informé de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, une nouvelle molécule, une nouvelle technologie. On l'informe que, ça peut être le moyen de dire, revenez nous voir, ça fait 6 mois que vous avez fait le check-up. Voilà. Obligé, pas obligé. C'est une façon de... Ça ne va pas que pour les patients. Hein. Vous avez vu la toile, ça couvre la prévention, ça couvre les partenaires. Ça, c'est le projet e-toile. Projet assez intéressant d'utiliser la technologie. Bon, je passe transparent suivant. Dernier point, c'est une... on revient. Hop. C'est pas grave. Hop, on remonte. Dernier point, c'est peut-être une bouteille à l'encre. On a perdu le fil. C'est la géolocalisation. Bah, j'imagine, en plein d'établissements en psychiatrie, vous avez réfléchi à des mesures de sécurité électronique qui permettent de suivre le patient, les fameux bracelets utilisés dans tel et tel domaine. Alors, consensus médical, pas consensus médical, contrainte ou pas, qu'est-ce que font les autres en la matière? La géolocalisation, c'est le sujet en MCO sur lequel, moi je dis, si on est investisseur, il faut investir. Alors, je vous ai pris un exemple, là aussi, balade à faire ensemble ou séparé, si vous voulez. C'est le Mount Sinai à New York, qui est un établissement assez intéressant du Upper East Side, donc en haut à droite. Et qui, parce qu'il est une vieille pierre américaine, un building d'époque coincé entre deux autres buildings, ben, n'arrive plus à s'étendre. Et donc, ils ont dit, plan stratégique, comment je peux trouver la croissance des mètres carrés d'un établissement qui ne peut pas bouger? Et donc, ils ont réfléchi, on va essayer d'optimiser tout ça. Et entre autres, ils ont dit, on va optimiser les biens et les personnes. Et donc, on va travailler sur les logiques de workflow. Et donc, chaque patient qui rentre va être équipé d'un petit bracelet et on va le suivre. Et on va suivre son cheminement réel versus l'image qu'on en avait théorique de son cheminement. Et on va comparer les deux. On va comparer le parcours du patient théorique avec le parcours dans la vraie vie. On va voir là où il a attendu inutilement. On va voir pourquoi notre organisation, qui devait faire que l'imagerie avait lieu à 4 heures à son entrée, se passe le lendemain. Et on va mettre ça dans la boucle. Et on va tourner, on va comparer les écarts. Et à la sortie, on va faire des prévisions qui sont extrêmement justes. Ça, c'est le Mount Sinai. Et ça, c'est aujourd'hui l'arme absolue sur laquelle travaillent quelques CHU de pointe pour dire comment raccourcir une DMS dans un milieu contraint où il faut être plus performant que son voisin. Alors, ça n'a pas pour but... Vous n'êtes pas dans l'AVA, vous n'êtes pas dans cette logique-là. Ce que je montre là, transparent suivant, c'est la technologie, par contre, elle peut être utile pour vous. Donc, technologie, c'est quoi? C'est un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'est un bracelet qui peut s'enlever ou pas. Ça peut être un badge très élégant. Hein, dans des cliniques privées, vous mettez badge et vous pouvez l'enlever quand vous n'avez pas envie d'être assez. Pour des malades qu'on veut plus contraindre, bah, c'est une montre assez discrète que l'on ne peut pas arracher. Et puis, dans le faux plafond, voilà, donc ça, c'est le vieux modèle. Les modèles aujourd'hui sont très smart. Il peut même avoir la pub dessus. Donc. Et puis, vous avez les récepteurs dans les faux plafonds. Et puis, aujourd'hui, la technologie fait que si vous êtes équipé de Wi-Fi, vous êtes capable de faire du repérage au travers vos bornes Wi-Fi, moyennant quelque chose qui n'est pas très coûteux. Transparent suivant, on avance. À la sortie, vous avez ça. Vous êtes capable de voir, patient par patient, où c'est qu'il est, où c'est qu'il attend. Ah, ça peut être utile. D'abord, on sait où il est, on sait où il attend, on est capable de revoir ses cheminements, de ses errements. Et à partir de là, on en tire une... Alors, en termes de gestion, moi, je vois très bien ce qu'on peut en faire. Dans vos domaines, c'est peut-être quelque chose à regarder de près. Voilà, donc c'est 4 pistes de ce qui se passe en matière de mobilité sur les patients. Dernier transparent... Alors, ça, juste pour montrer, c'est pour le fun. À New York, voilà ce qu'ils ont fait, la prédiction. Aujourd'hui, ils sont tellement bons sur l'écart entre la vraie vie et ce qu'ils avaient prévu. C'est dans les fameux yellow cabs, les taxis jaunes new-yorkais. Vous dites, je veux aller aux urgences du Mount Sinai. Il peut se connecter, vous le connectez sur votre iPhone, mais le taxi a ça en application. Il vous dit, ah, Mount Sinai actuellement, c'est 4 heures d'attente aux urgences. Donc, il vaut peut-être mieux qu'on aille à côté. Parce que la prévision, elle est très bonne. Voilà. Tout ça, c'était des petites histoires, quelques photos, nos propositions. Ben, vous avez chargé le groupe de réfléchir sur le sujet. Ah, nous, on vous dit, est-ce que vous voulez créer la dynamique? Est-ce que vous voulez continuer à avancer? Si c'est ça, ben, il faut maintenir le groupe de travail et l'élargir. L'élargir à des médecins, l'élargir à des DIM, l'élargir à un peu plus de volontaires. Hein, il y a un petit noyau de 4-5 personnes qui sont beaucoup investies. Vous êtes très nombreux à pouvoir apporter un écho là-dessus. C'est notre objectif, une lettre de mission. Je crois que les techniciens, les DSI, ne peuvent pas s'auto-saisir du sujet. Ils ont besoin d'une lettre de mission là-dessus. Puis c'est quelques moyens, parce qu'il faut se déplacer, sans doute, pour voir les choses les plus intéressantes. On a proposé sur le dossier patient qui était partagé deux pistes de travail. La première, c'est dans le dossier partagé, il manque cruellement le recensement de ce qui a été fait. Je suis certain qu'il y a des endroits où il a été fait des choses. Donc, il y a une démarche un peu scientifique où on va recenser les initiatives, les expérimentations, on va en faire la synthèse, on va poser l'évaluation. Et avec ça, on en fera les préconisations. Voilà. Plutôt que de dire c'est un problème politique et stratégique, on fait un recensement, on l'évalue, on le synthétise, on fait des préco. Deuxième sujet sur la mobilité des personnels et des patients, ben, l'idée c'est de s'emparer de 2-3 sujets parmi les pistes que je vous ai citées, parmi d'autres, le groupe s'auto-charge de 3 sujets et là on les descend jusqu'au bout, en détail, concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans nos métiers, c'est quoi la traduction opérationnelle de tout ça, est-ce qu'on peut standardiser, est-ce qu'on peut préconiser pour la communauté que vous formez. Donc on les approfondit ces solutions et on fait des propositions au niveau national. Et puis ces outputs-là, vous les portez au niveau politique national. L'ANAP va lancer bientôt un appel à projet sur le sujet. Ben, prenez candidature avec quelque part un livre blanc, quelque chose d'un petit peu réalisé. Si vous devez acheter quelque chose en commun, une des solutions, ben, il y a des fonctions d'une IHA qui permettent de le faire. Bref, tout ce qui peut servir la fonction collective. J'avais terminé, je vous en remercie.